Les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, il est 10h en temps universel. Bonjour à tous. Le gouvernement chinois a assuré aujourd'hui qu'il continuait de soutenir résolument la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, en dépit de la victoire de l'opposition pro-démocratie lors des élections locales de dimanche. Madame Lam a décidé que son gouvernement souhaitait écouter humblement la population au lendemain du cuisant revers électoral essuyé par son gouvernement. Le porte-parole de Pékin a répété pour sa part que stopper la violence et rétablir le calme étaient les tâches les plus urgentes de Hong Kong actuellement. L'ex-maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, s'est lancé dimanche dans la course à la Maison-Blanche, relançant avec sa candidature la compétition déjà serrée pour l'investiture démocrate. Eric Manirakiza.
Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique, a déclaré sur son site internet l'homme d'affaires de 77 ans. L'entrée en course de M. Bloomberg n'a pas suscité de réaction immédiate de Donald Trump, qui s'est contenté de retweeter des critiques de sympathisants républicains contre l'ex-maire de New York. Son immense fortune acquise dans l'information financière, quelques 50 milliards de dollars, fait de lui un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison Blanche en novembre 2020, sans favori évident. Nous ne pouvons pas nous permettre 4 années supplémentaires d'actions immorales et irréfléchies de la part de Donald Trump, a justifié M. Bloomberg dimanche. Il représente une menace existentielle pour notre pays et nos valeurs. S'il remporte un nouveau mandat, nous pourrions ne jamais nous en remettre, a ajouté le responsable à la tête de la métropole de New York de 2002 à 2013. Très actif dans la lutte contre le changement climatique, contre la prolifération des armes à feu ou pour la santé, Michael Bloomberg avait annoncé en mars qu'il renonçait à se présenter pour, entre autres, ne pas saper les chances de M. Biden. Son revirement apparaît donc comme un signal clair qu'il doute sérieusement des chances de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama.
Le pape François a évoqué aujourd'hui la préoccupation suscitée par l'usage de l'énergie atomique et a appelé à une mobilisation renforcée pour aider les victimes du séisme, du tsunami et de la catastrophe nucléaire de 2011 au Japon. Au troisième jour de son voyage au Japon, François a écouté à Tokyo le témoignage de victimes du séisme sous-marin qui, le 11 mars 2011, a soulevé dans le nord-est du Japon une gigantesque vague dans laquelle plus de 18 500 personnes ont été emportées. La vague a aussi heurté de plein fouet la centrale atomique de Fukushima, provoquant le pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl en Ukraine en 1986. La Syrie et les puissances occidentales se préparent à un nouveau bras de fer cette semaine lors de la réunion annuelle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, dont les enquêteurs s'apprêtent pour la première fois à désigner les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Lors de cette réunion clé qui se déroulera de ce lundi à vendredi, Moscou menace notamment de bloquer le vote du budget 2020 de l'OIAC si celui-ci comprend un financement pour l'équipe d'enquêteurs.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et sur le continent, la Namibie vote aujourd'hui pour les élections générales, vote du moins ce mercredi, pour les élections générales, une nouvelle fois promise à l'Organisation du peuple sud-ouest africain, la SWAPO, parti qui la dirige sans partage depuis son indépendance en 1990, malgré une récession économique sévère et la grogne montante de la population. Le président Hage Geingob, 78 ans, est candidat à un second mandat face à la machine électorale parfaitement huilée de la SWAPO. L'opposition fait pâle figure. La première femme à briguer la magistrature suprême, Esther Mouijangwe, 57 ans, a dénoncé la corruption et le clientélisme du régime. Même Mouijangwe n'ambitionne au mieux que de remporter 2 des 80 sièges du Parlement. Et puis les Bissau-Guinéens ont voté hier pour élire leur nouveau président et espérer tourner la page de l'instabilité dans ce pays lors d'un scrutin terni par des échauffourées et des accusations de fraude lancées par le camp du président sortant. Les premières tendances sont attendues à partir de maintenant. La date du 29 décembre a été retenue pour un second tour hautement probable.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.